Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute. Aujourd'hui, pensez les figures du mal avec Céline Spector. Avons-nous encore les moyens de penser le mal? Sommes-nous armés philosophiquement pour affronter les méchants? Les affronter, c'est-à-dire les entendre et les réfuter. Et quand je parle des méchants, j'entends non pas le vocabulaire enfantin, mais les terroristes, les tortionnaires, les violents, les injustes, les vrais méchants. Longtemps, la philosophie a considéré de son devoir de mener cette tâche, et on peut reconstituer dans l'histoire de la philosophie toute une galerie de personnages, toute une histoire de ces scènes de dialogue, parfois théâtraux, entre le philosophe et son objecteur. C'est la reconstitution de cette galerie de portraits d'objecteurs philosophiques sur la question du mal que nous retrace un essai tout à fait passionnant signé Céline Spector et intitulé « Éloge » au pluriel, « Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison » publié récemment aux éditions du Seuil. Céline Spector, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie politique à Paris 4 Sorbonne. Vous êtes une spécialiste de la philosophie du XVIIIe siècle. Vous avez écrit sur Montesquieu notamment, Montesquieu, Liberté, Droit et Histoire en 2010 aux éditions Michalon. Sur Rousseau également, Rousseau, Les paradoxes de l'autonomie démocratique en 2015. Et vous êtes donc l'auteur de ce récent livre Éloge de l'injustice aux éditions du Seuil. Céline Spector, vous faites toute une rétrospective de cette galerie de portraits d'objecteurs, de figures de l'injustice qui revendiquent le fait qu'il n'est pas rationnel d'être juste face aux philosophes. Qui sont ces objecteurs? Pourquoi d'abord ce terme d'objecteur que vous nous proposez?
Alors j'ai choisi de privilégier le terme d'objecteur, même s'il n'est pas dans l'histoire de la philosophie elle-même, parce qu'on trouve en quelque sorte une figure, ou ce que j'ai appelé un personnage conceptuel, depuis la philosophie antique jusqu'à la philosophie moderne. C'est-à-dire que chez Platon déjà, on a, disons, deux figures de l'objecteur, ou on peut dire aussi de l'avocat du diable, qui surgissent. C'est-à-dire que le philosophe va se donner en quelque sorte, face à lui, un personnage qui va le contredire. Et c'est tout à fait fascinant de voir que les philosophes ont voulu eux-mêmes mettre à l'épreuve leur théorie, se mettre en danger, se mettre en péril, en incarnant la contradiction à leur propre théorie. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est que ce sont des personnages conceptuels qui ne se contentent pas d'argumenter, mais qui également sont véritablement incarnés. Ils expriment des émotions, ils expriment des réactions affectives, ils expriment de l'agacement, de l'agressivité, parfois de la violence verbale. Et donc, j'ai trouvé très intéressant que la philosophie prenne en compte cette dimension de l'altérité ou du dehors et essaye finalement de la faire rentrer en quelque sorte à l'intérieur de la philosophie. Et disons que le philosophe se pose la question de savoir comment répondre, comment réfuter, mais aussi plus généralement comment répondre sans se contenter peut-être d'une réfutation argumentée.
Surtout que ces personnages d'avocats du diable contestent le philosophe sur le terrain le plus essentiel, le plus radical, sur le terrain de la justice, de la vertu, sur le terrain du bon comportement. Ce sont des personnages qui n'hésitent pas à dire qu'il est complètement absurde, insensé, ridicule de se comporter bien quand on peut se comporter mal à peu de frais, quand on peut pratiquer l'injustice, le vol, la violence sans être puni pour ça. Ce sont évidemment des idées, j'allais dire banales, des idées du commun, mais qui sont présentées avec une virulence tout à fait exceptionnelle. Ces personnages, vous dites que ce sont des personnages conceptuels, c'est-à-dire que ce sont des inventions des philosophes eux-mêmes pour se constituer un adversaire à leur mesure.
Oui, alors ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y a deux figures principales de l'objecteur. Il y en a même plusieurs autres, mais disons il y a deux figures principales au moins. D'une part, le sceptique, c'est-à-dire celui qui nie l'existence même de la justice, qui considère que la justice en soi est une illusion et qu'au fond ce n'est qu'une convention relative au temps, au lieu, à l'utilité sociale d'un groupe donné, mais ça ne peut jamais être une valeur universelle ou un absolu. Donc d'une part le sceptique et d'autre part je dirais le cynique, c'est-à-dire celui qui peut considérer peut-être que la justice existe, mais qui considère en tout cas que c'est un très mauvais choix. C'est-à-dire qu'au fond, évidemment, l'injustice est toujours gagnante. Si l'on est injuste, on accumule de l'argent, on peut profiter davantage des honneurs, donner libre cours à son ambition. Et au fond, on ne voit vraiment pas pourquoi, si l'on peut échapper aux sanctions, évidemment, c'est toujours la clause importante, pourquoi on ne laisserait pas libre cours voilà, à sa liberté, à son désir de plaisir, d'ambition, d'honneur. Et donc, il y a ces deux dimensions, le sceptique et le cynique, hein, que les philosophes vont faire jouer finalement tout au long de l'histoire de la philosophie antique et moderne.
Et l'un et l'autre, le sceptique comme le cynique, laissent des traces sur le lecteur. Et il me semble que l'un des enjeux, évidemment, de cette controverse qui se rejoue de siècle en siècle, hein, puisque vous prenez vos exemples aussi bien chez Platon, chez Hobbes, chez Diderot, chez Rousseau, chez Sade, bien sûr, chez Hume, et on va évidemment jusqu'à l'époque contemporaine, on va en rediscuter, mais cette controverse philosophique entre d'une part les sceptiques et les cyniques et d'autre part les philosophes, elle laisse des traces sur l'auditeur. Et l'enjeu, c'est évidemment d'emporter la victoire. Mais emporter la victoire, ça ne veut pas dire seulement gagner la bataille des arguments à l'intérieur du livre lui-même, mais gagner la bataille de la conviction sur le public de ses livres. Et c'est là qu'évidemment que la question devient difficile, parce que le sceptique, il laisse un parfum de soupçon qui ne nous quitte pas une fois qu'on a refermé le livre. Et le cynique, eh bien, il nous donne le sentiment d'être des idiots, d'être des naïfs et de ne pas savoir nous emparer de la vie dans tout ce qu'elle peut offrir. Alors, ces traces que laissent ces joutes verbales, finalement, est-ce qu'il est si clair que ça que le philosophe gagne à la fin ?
Alors, ce que j'ai voulu montrer justement tout au long de ce parcours, c'est qu'au fond, la victoire était toujours indécise. Et que le dialogue ou l'agone hein, entre le philosophe et son autre, qui peut aussi s'avérer être son double, hein, on y reviendra peut-être, eh bien cette agone, finalement, ne se solde que très rarement par une victoire claire et nette du philosophe. Alors on en a plusieurs exemples, hein, par exemple dans le Gorgias de Platon, finalement Calliclès et Socrate dialoguent hein, tout au long du Gorgias, mais au fond Socrate ne parvient pas à emporter hein, l'adhésion de son adversaire, qui finalement se mure dans le silence, une sorte de silence hostile. Il se retire de la discussion, mais il n'est pas convaincu. Et Socrate lui-même, à la fin du Gorgias, n'a d'autre recours que le mythe, c'est-à-dire en fait une sorte de figure du jugement dernier, où ce ne sera plus les infortunes de la vertu et les prospérités du vice, mais où le juste sera enfin récompensé et où l'injuste sera enfin puni. C'est-à-dire que finalement, il y a ce recours au mythe qui sort du logos, qui sort du discours rationnel, et qui est le seul recours final du philosophe, alors même qu'il n'a pu emporter de véritables victoires.
Et du coup, il y a quelque chose de très dangereux dans cette démarche, et de presque présomptueux dans cette démarche de la philosophie, de s'inventer de manière aussi puissamment structurée des figures d'adversaires, d'objecteurs, d'avocats du diable, de les doter de toutes les armes de la pensée et du discours, d'en faire vraiment des adversaires flamboyants, extrêmement séduisants, sans être complètement sûr à la fin qu'elle saura les réfuter et les réduire à néant. Et il me semble qu'on trouve, d'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué en vous lisant Céline Spector, il me semble qu'on trouve un processus un peu similaire dans la littérature, avec peut-être encore plus de risques ou de dangers, parce que la littérature, la fiction, elle s'adresse davantage au grand public que la philosophie, et elle laisse aussi des traces quand elle forge des figures de grands méchants ou de grands injustes. Et je pensais en particulier à ce roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment, où le personnage principal, Raskolnikov, développe toute une théorie selon laquelle les grands hommes, les hommes exceptionnels, ont le droit de commettre des crimes parce que ce sont des grands hommes, et puis parce que peu importe les quelques dégâts collatéraux du moment que le jeu en vaut la chandelle. Ce roman, une fois terminé, achevé, eh bien, ce qui reste dans notre souvenir de lecteur, c'est la puissance de cette théorie de Raskolnikov qui n'est pas réfutée. Il y a quelque chose ici de risqué dans cette démarche qui, finalement, plusieurs siècles après, peut continuer à nous contaminer.
Alors, je dirais, comme Platon, il me semble que c'est un beau risque, que c'est un risque à prendre pour la philosophie. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme une forme de présomption, hein, se donner à soi-même un adversaire qu'on n'est pas sûr de pouvoir vaincre, mais je crois qu'on peut aussi voir ça comme une mission. Et pour ma part, je pense que c'est une véritable mission de la philosophie que de ne pas ignorer ce qui pourrait relever de l'altérité ou du dehors, c'est-à-dire de ce qui refuse hein, finalement son discours, son argumentation et même son mode d'argumentation par justement des arguments rationnels. Et donc de ce point de vue-là, je considère au contraire qu'il est très courageux et même à certains égards humble de la part des philosophes de s'être donné des objecteurs qui finalement sont armés hein, de véritables armes dans la pensée, mais aussi dans l'expression, hein, qui sont séduisants, comme vous le disiez, et qui sont difficiles à vaincre. Je crois au contraire qu'il faut louer le courage de ces philosophes d'avoir osé en quelque sorte se donner des adversaires aussi forts, aussi séduisants, aussi puissants.
Il y a dans la tradition juive et en particulier dans le corpus biblique un texte qui met en scène aussi une figure d'objecteur ou d'avocat du diable. C'est peut-être même la première occurrence dans l'histoire de la littérature et de la philosophie mêlée de cette figure de l'avocat du diable. C'est le livre de Job dans lequel Satan développe l'idée que la vertu, la piété sont toujours intéressées, qu'il n'y a pas de désintéressement. Et pour le prouver, on va faire subir les épreuves que l'on sait à Job. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Job insiste sur le fait que dans la vie, les méchants ne sont pas toujours punis. Et les gentils, hein, je retrouve mon vocabulaire enfantin, mais les gentils ne sont pas toujours récompensés. Dieu n'agit pas avec la même justice que les hommes et qu'il y a là un mystère sur lequel on campe, on ne peut pas s'en sortir. Là encore, il y a quelque chose, je reprends l'expression que vous teniez à l'instant, il y a quelque chose de l'ordre du courage dans cette attitude qui consiste à partir de la réalité, de la confrontation avec la réalité, sans fournir de réponse, puisque le livre de Job n'est pas conclusif. Il n'y a jamais de réponse à cette question mystérieuse-là, pourquoi les méchants sont récompensés et pourquoi les gentils souffrent parfois. Ce courage philosophique, Céline Spector, vous soutenez dans votre livre qu'on l'a peut-être perdu récemment. En tout cas, que tout un pan de la philosophie contemporaine a oublié sa mission et s'est contenté de versions affadies de ces figures du mal contemporaines. Autrement dit, qu'on n'a plus les moyens d'affronter le défi que nous pose le mal à sa juste mesure. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi est-ce que vous développez cette idée qu'on n'a plus aujourd'hui les armes intellectuelles pour penser le mal à sa juste mesure?
Oui, ben c'est le constat qui m'a conduit à l'écriture de ce livre. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais parcouru la philosophie politique antique et moderne en étudiant notamment l'insensé chez Hobbes, le raisonneur violent chez Diderot, le fripon intelligent chez Hume et bien d'autres encore. J'avais essayé de trouver chez Sade, disons, une sorte d'incarnation de l'insensé dans le philosophe lui-même, le philosophe s'incarnant avec cette figure diabolique. Et la lecture de la philosophie politique contemporaine, mainstream, hein, c'est-à-dire pour l'essentiel, la philosophie politique anglo-saxonne, notamment depuis le renouveau qu'a constitué la théorie de la justice de John Rawls. John Rawls fait paraître la théorie de la justice en 1971, et c'est un vrai tremblement de terre dans la philosophie politique qui donne lieu à de très nombreuses réponses. Voilà. Donc ce que je constate dans la philosophie politique contemporaine, c'est qu'il n'est plus question de cette figure de l'objecteur, qu'il n'est plus question, disons, d'incarner l'objecteur, celui qui ne croit ni en la réalité du juste, ni en sa possible application, c'est-à-dire qui ne croit pas que nous soyons, disons, obligés de suivre le juste, même si on pouvait le connaître. Alors, quel est le sens de cette disparition? Faut-il dire que l'insensé a totalement disparu? Faut-il essayer de trouver, disons, une certaine forme de métamorphose? Alors, j'ai plutôt été tentée par cette seconde réponse, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver, finalement, quelle était la nouvelle figure de l'insensé ou de l'immoraliste à une époque où ce qui triomphe, au fond, c'est le paradigme du choix rationnel, c'est le paradigme de l'acteur rationnel qui calcule et optimise, hein, en calculant les bénéfices et les coûts escomptés de son action, en fonction des risques aussi qui sont présents. Et donc, je me suis dit, finalement, qui est cette nouvelle figure de l'insensé ou du raisonneur violent? Et je me suis, disons, laissé tenter par l'idée que c'était le passager clandestin. Alors, le passager clandestin, en anglais free rider, donc celui qu'on traduit parfois par le resquilleur, parfois par celui qui bénéficie d'un ticket gratuit, le tricheur, il y a plusieurs manières, le fraudeur, il y a plusieurs manières de le traduire. Le free rider, c'est celui qui ne contribue pas à un système de coopération à la hauteur de ce dont il profite. Donc, au niveau le plus élémentaire, ça peut être celui qui triche dans le métro ou dans les transports en commun, ça peut être celui qui veut bénéficier des avantages d'une grève sans lui-même faire grève. On peut en trouver à différentes échelles. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Rawls, dans la théorie de la justice, va jusqu'à interpréter l'intolérance, hein, le fanatisme, en termes de free riding. Hein, au fond, l'intolérant, c'est celui qui ne paye pas son tribut à la constitution libérale, c'est celui qui a bénéficié finalement des institutions libérales, de la liberté de conscience, de la liberté de culte et d'expression.
Et de la tolérance des autres.
De la tolérance des autres, et qui lui-même n'est pas capable de réciprocité, et n'est pas capable finalement de rendre son tribut à la constitution, au pays, à ses concitoyens. Et je trouve qu'en un sens, bon, c'est une, assez, une interprétation intéressante, hein, profondément intéressante, mais elle est aussi profondément risquée. Parce que réduire le fanatisme ou réduire l'intolérance, le mal politique en général, à cette figure du freerider, c'est d'une certaine manière réduire la faute à la fraude. C'est réduire ce qui faisait la densité du mal en philosophie politique à un problème qui est un problème essentiellement économique.
Et c'est aussi une manière de dire qu'on pourrait encore raisonner finalement et faire comprendre à ce freerider que son réel intérêt sur le long terme ou en profondeur n'est pas celui qu'il croit. Vous avez le sentiment qu'il y a un décrochage entre la réalité du mal radical auquel on assiste, parfois d'ailleurs sous forme de spectacle, hein, face à ces métamorphoses contemporaines, je pense au terrorisme, mais pas seulement, un contraste entre la réalité du mal et ces interprétations philosophiques dans le sillage de la philosophie anglo-saxonne. À côté de quoi est-ce qu'on passe exactement ?
Oui, alors c'est exactement la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui est perdu en termes de réalisme politique, lorsque l'on oublie ou lorsque l'on néglige la figure de l'objecteur? Et je crois qu'il faut vraiment se demander quelle est la forme de réalisme et donc quel est le réel qui est perdu. Et à mes yeux, ce qui est perdu, c'est tout d'abord la force de l'illusion, hein, la force de l'aliénation des croyances, mais aussi la force des passions, la force des affects, hein, qui soutiennent, disons, ces illusions. Et donc, en ce sens, il me semble que croire que l'on va pouvoir convaincre l'adversaire ou l'objecteur par des arguments rationnels, purement rationnels, c'est négliger la force de la manipulation, c'est négliger la force des affects de ressentiment, de haine, de vengeance, de colère, des passions tristes, hein, comme disait la philosophie aussi, des passions tristes qui sont à l'origine des conduites injustes et qui peuvent être à l'origine de conduites criminelles. Donc, il me semble qu'on a là une perte qui est extrêmement forte si l'on considère que seul le paradigme du choix rationnel va être suffisamment, en quelque sorte, puissant pour pouvoir expliquer les conduites.
On a évidemment une illustration magnifique de ce que vous décrivez avec notre impuissance collective d'intellectuels face au phénomène Trump. Hein, où là, on a, vous soutenez d'ailleurs que Trump est une nouvelle figure de l'insensé ou du raisonneur violent, ou de celui qui ne respecte pas les règles et qui s'en vante. Une figure de cynique, hein, typique, et en même temps, le philosophe ou la collectivité philosophique ne sait pas du tout comment réagir face à ça, se sent complètement impuissante parce que il refuse de se tenir sur le terrain de la rationalité partagée, il refuse de discuter. Au moins le Calliclès face à Socrate dans le livre de Platon que vous mentionniez tout à l'heure. Il accepte la discussion. Alors évidemment, au bout d'un moment, il en a marre, donc il jette l'éponge et il s'en va. Mais il accepte la discussion. Face à Trump, il n'y a pas de terrain de discussion rationnelle possible.
Oui, alors on est passé du dialogue au monologue. Et on est passé de l'acceptation quand même à une sorte de doxa commune, au moins sur certains faits, à l'absence de communication possible entre les faits, puisque là on est dans la post-truth politics. C'est-à-dire que même, disons, les faits les plus élémentaires de la vie sociale deviennent problématiques ou peuvent être forgés. Donc on est à un stade en quelque sorte nouveau. Hein. Trump, pour moi, c'est une nouvelle figure de Calliclès, hein, du personnage platonicien. Mais en un sens, c'est une figure encore plus problématique, parce que précisément, le monde commun lui-même, hein, donc avec ses faits qui pourraient quand même paraître tangibles, hein, d'évidence connue, deviennent eux-mêmes, disons, l'objet de la discussion et l'objet du scepticisme. Donc c'est un scepticisme renforcé, c'est un scepticisme au carré en quelque sorte, puisque ce qui fait l'objet du doute, c'est pas seulement l'idéologie libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire progressiste, c'est pas simplement la justice comme telle, la justice sociale par exemple, c'est le fait que l'on puisse s'adresser ensemble sur un terrain commun avec des faits connus qui sont partagés. Donc voilà, pour moi, c'est une figure encore plus dangereuse en un sens.
Et sur laquelle, évidemment, on n'a pas de... On reste au stade de la sidération aujourd'hui, collectivement. Cette autre figure du mal qui est notre problème du moment, du mal politique, je pense au terrorisme. Sur le terrorisme, la philosophie, dites-vous, a renoncé à se saisir de l'adversaire et à le convoquer sur la scène de la discussion philosophique. En revanche, j'ai le sentiment que le terrain n'est pas resté vide, mais qu'il a été au contraire rempli, peut-être même trop abondamment rempli, surchargé, par un très grand nombre d'autres grilles de lecture qui sont autant d'interprétations possibles. Je pense à la sociologie, je pense à la psychologie sociale, je pense à la psychanalyse, je pense aux sciences politiques. On a aujourd'hui un trop-plein de grilles d'interprétations pour penser le phénomène terroriste qui, finalement, sont autant de manières d'affadir l'énigme ou le défi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement la philosophie a reculé là où d'autres grilles de lecture se sont imposées. Oui, notamment, vous pensez les passions et les émotions que vous disiez.
C'est une lecture très intéressante. Hein. Je pense en effet que l'importance prise par la sociologie, notamment la sociologie de la radicalisation, ou l'importance prise par la psychanalyse, puisqu'on a eu des explications très intéressantes hein, du phénomène terroriste par des psychanalystes, a sans doute laissé peu de place à l'explication philosophique proprement dite. Néanmoins, je ne crois pas qu'il faille ici dissocier les sciences sociales. Pour ma part, je crois en une philosophie politique directement articulée aux sciences sociales et directement en prise, notamment avec la sociologie, avec la psychanalyse et aussi avec la littérature, même si ce n'est pas une science sociale directement. Donc, si vous voulez, il ne me semble pas que la philosophie doive pour autant démissionner, mais plutôt qu'elle produise un discours qui, à partir des analyses sociologiques, à partir des analyses psychanalytiques du phénomène, soit capable, disons, d'analyser les raisons pour lesquelles, et bien, effectivement, il ne s'agit pas seulement d'une opposition de l'intérieur du système, hein, sur le type du Freider que je mentionnais à l'instant, mais d'une opposition extérieure au système qui veut éventuellement détruire les valeurs de l'Occident, son immoralité, son impiété, etc. Donc on a ici une manière de répondre qui doit être trouvée par la philosophie. Hein. On ne peut pas se contenter de compter sur les autres sciences sociales.
Mais en même temps, la réponse par la philosophie, elle suppose encore de se tenir sur le terrain des idées, sur le terrain des arguments, alors que la force de séduction de ces idéologies terroristes porte essentiellement sur l'émotionnel. Je rejoins finalement le début de notre discussion, l'enjeu ou l'arbitrage de ces controverses, qui sont mises en scène parfois de manière très théâtrale, entre l'objecteur et le philosophe, c'est d'emporter l'adhésion du public. C'est de garantir au public qu'il a raison de continuer à se comporter de manière juste. Est-ce qu'on peut mener la démarche similaire face au terrorisme ?
Alors, il me semble que la philosophie politique doit au moins penser l'importance des passions, des affects, des émotions en politique. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire refuser une sorte de rationalisme intégral. Et ça, malheureusement, ça n'est pas le fait de la grande majorité, là encore, à l'échelle internationale. Je ne parle pas exclusivement de la situation française, qui est un petit peu différente, parce qu'en France, la philosophie sociale a pris beaucoup d'ampleur, et que la philosophie politique de type anglo-saxonne est en un sens restée à distance. Mais à l'échelle internationale, le paradigme, disons, d'une rationalisation intégrale, qui associe aussi à une sécularisation intégrale hein, de l'espace politique, me paraît dangereux en lui-même, parce que justement, il nous prive des possibilités d'analyser, de comprendre, et aussi de réfuter ce qui nous arrive de l'extérieur. Donc je ne crois pas qu'il faille considérer que la philosophie n'a pas son mot à dire lorsqu'il s'agit d'affect ou qu'elle ne peut produire qu'un discours rationnel inaccessible. Il faut effectivement que la philosophie fasse aussi le travail de descendre en quelque sorte hein, au charbon, pourrait-on dire, hein, à la mine, c'est-à-dire s'adresser dans leurs propres termes aussi à des individus qui, à mon avis, ne sont pas dans l'irrationalité pure. Hein. Mon livre s'achève hein, sur une réflexion autour du terrorisme djihadiste, qui est une des formes de violence, on en a connu beaucoup d'autres, hein. Mais une des formes de violence actuelle à laquelle nous sommes confrontés, je ne crois pas qu'il faille considérer qu'il s'agit d'irrationalité pure. Et dans les retours de ce qu'on appelle les revenants, hein, par exemple de Syrie ou d'Irak, nous avons l'idée que ben voilà, ces individus parfois ont un très fort sens de la justice et qu'ils rationalisent en des termes de justice leur expérience.
Parce que leurs normes de justice ne sont pas du tout les nôtres.
C'est ça
et
la
qu'il faut
question.
Intervenir Dieu dans l'affaire.
C'est ça la question. Leurs normes de justice sont-elles nécessairement totalement différentes des nôtres, ou sont-elles simplement manipulées de telle sorte qu'elles prennent un objet différent des nôtres? Et donc je crois que tout le travail à faire de la philosophie est aussi là, reconstituer en effet avec des sociologues, des psychanalystes, etc., le type de discours sur la justice qui est tenu et qui parfois est très, effectivement, de l'ordre de la loi du talion, hein, dent pour dent et pour œil, hein, c'est le discours d'Amélie Coulibaly, ce que vous nous avez fait au Mali, nous vous le faisons ici. Donc parfois on a un discours qui adopte les formes de la rationalité assez primitive. Hein. Et puis parfois, sens de la justice, effectivement, il fallait que j'aide, il fallait que je fasse quelque chose pour, voilà, sur le mode d'une forme de vengeance. Donc je crois pas qu'il faille rester totalement hermétique ou considérer qu'il s'agisse d'une pure énigme du mal. Je considère au contraire qu'il faut aller au plus près de ces discours, les entendre, essayer de les comprendre et évidemment tenter de les réfuter avec les armes qui sont à la fois les armes de la philosophie, le discours rationnel, et puis sans doute d'autres types d'armes, si j'ose dire, qui ne sont pas évidemment le privilège de la philosophie.
Merci beaucoup Céline Spector, c'est toute une entreprise, tout un chantier évidemment que vous nous invitez à ouvrir dans le prolongement de votre livre, dont je rappelle le titre, Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison, et c'est aux éditions du Seuil. Merci à vous Céline Spector, et bonne semaine à tous.
C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.